podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast. Y a-t-il encore des choses à dire sur Buffy contre les vampires ? La série de Joss Whedon nous raconte l'histoire improbable d'une jeune lycéenne qui devient la tueuse de vampires à 16 ans. Diffusée entre 1997 et 2003, la série que rien ne prédestinait au succès est composée au final de 7 saisons et 144 épisodes. Bien que loin de susciter l'engouement médiatique populaire d'une Desperate Housewives ou d'un 24 heures chrono, la série a fait la une des magazines pour adolescents pendant des années grâce à l'histoire d'amour romantique entre Buffy et Angel, un vampire de plus de 200 ans son aîné. Comme quoi, Twilight n'a vraiment rien inventé. La série aura aussi été l'un des fers de lance de la toute jeune chaîne américaine WB, mais passera ses deux dernières saisons sur UPN. Elle permettra également à de jeunes acteurs de se révéler aux yeux du grand public. Sarah Michelle Gellar, qu'on ne présente plus, Alison Hannigan, Though I Met Your Mother, Nicholas Brendon, James Marsters, Smallville et Caprica, Julie Benz, qu'on a vu dans Dexter, ou encore David Boreanaz, Angel et Bones. Si la série fait suite à un très mauvais film, Bichette la Terreur en français, l'héroïne fétiche de Joss Whedon connaîtra un tout autre destin à la télévision, remarquée pour ses dialogues ciselés, pour ses épisodes spéciaux, Hush ou Once More with Feeling, ses arcs narratifs construits sur plusieurs saisons, sa cohérence artistique évidente et sa brillante chronique du passage de l'adolescence au monde adulte, la série fera l'objet d'un véritable culte et sera même analysée dans les grandes universités américaines. Mais en plus de tout cela, Buffy contre les vampires recèle une dimension féministe très remarquée. Comment ce message se traduit-il dans une série présentée comme fantastique et destinée a priori à un public de boutonneux ? C'est ce que Nathanaël Picasse a voulu savoir. Bonjour Nat.
Bonjour à tous.
Pour nous accompagner aujourd'hui, Sarah Sepulcre, bonjour.
Bonjour.
Alors Nat, faut-il être armé d'un pieu et tuer des vampires pour obtenir le label féministe ?
Oui, c'est vrai que l'analyse au premier regard peut sembler assez simpliste. On peut se dire, ok, c'est Buffy, femme forte, super-héroïne désignée, on a des personnages féminins qui ont tous des pouvoirs, donc forcément c'est une série féministe pour autant. Et pourtant, moi je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui présentent de caractéristiques comme ça et qui ne peuvent pas pourtant prétendre à un statut de série féministe. Je pense notamment à Charmed, qui mettait en scène aussi des sorcières puissantes, et pourtant lorsqu'on analyse leur rapport avec les hommes, on ne peut pas démontrer pour autant que les trois femmes étaient émancipées pour autant, puisqu'elles tiraient la langue à chaque fois qu'elles voyaient apparaître un bel homme. Elles étaient prêtes à se renier pour suivre le chemin qu'il avait tracé de son côté. Pareil aussi pour Ally McBeal, c'est une série qui était autoproclamée féministe, surtout dans sa campagne de publicité, mais dont l'héroïne principale ne pouvait pas exister sans les hommes. Elle voulait rencontrer le grand amour, l'épouser, avoir des enfants, et c'est pas parce qu'on parle de sexe non plus qu'on est automatiquement une série féministe. Je pense aussi à Sex and the City. Alors on a bien sûr Samantha et Miranda qui peuvent peut-être prétendre à ce statut-là parce qu'elles sont indépendantes, parce qu'elles n'ont pas spécialement besoin des hommes, elles se suffisent à elles-mêmes. Mais Carrie et Charlotte, Carrie, elle ne vit qu'à travers Mr. Big, malgré tout. Et puis surtout, en plus, la série, de manière générale, a évolué dans le mauvais sens, en faisant rentrer aussi toutes ces femmes dans leur rang à la fin. Elles se retrouvent toutes mariées, avec des enfants. Les films, c'est encore pire, parce que là, pour le coup, les femmes dont elles se moquaient dans les débuts des premières saisons, elles sont devenues ces femmes-là.
C'est un total reniement de ce que la série avait fait avant.
Avant de nous lancer dans le vif du sujet, moi, je voudrais repartir du début, de la définition exacte du mot féministe. Parce que c'est un mot un peu fourre-tout maintenant, hein, quand même, un peu galvaudé, dans lequel...
Tu te trompes pas, hein, t'as Sarah en face de toi.
Oui, c'est ça, voilà. Mais j'ai été dans Larousse,
T'as un gros stress devant toi,
voilà.
Quand même.
Mais bon, voilà, une femme qui débarque dans un lieu public en montrant ses seins, c'est pas automatiquement une féministe. Alors, c'est quoi la définition, en tout cas du Larousse, du féminisme ? C'est un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Et c'est une attitude de quelqu'un qui vise à étendre ce rôle et ses droits de femme. Donc, ça, c'est vraiment un féminisme actif. Quand on applique cette définition à Buffy et son pitch, son scénario de départ, Buffy ne semble pas coïncider avec cette définition, en tout cas au départ. Petit rappel, à chaque génération naît une tueuse, elle seule devra affronter les démons, les vampires et les forces du mal. Et ce sont par ces mots que débute chaque épisode de la première saison de Buffy. Autrement dit, Buffy n'est pas une femme forte par choix, elle a été désignée. Et elle vit ce statut comme un fardeau, elle seule devra affronter les forces du mal. On est donc loin de la jeune femme émancipée qui a décidé de prendre son destin en main. De plus, la mythologie de la tueuse sera développée pendant les saisons qui suivent, par petites touches intelligentes aussi, qui sont distillées de main de maître par Joss Whedon. On y apprend rapidement que la tueuse est placée sous la supervision d'un observateur, Rupert Giles, un homme. Ben voyons, il détient le savoir, c'est lui, qui devra éduquer la tueuse à devenir un bon soldat dans la lutte contre les forces du mal. Une fois encore, le féminisme de la série ne saute pas aux yeux à ce moment-là, d'autant que l'observateur lui-même est soumis au contrôle du Conseil des Observateurs, une société secrète dirigée de main de fer par un ensemble de vieux anglais procéduriers, ce qui appuie davantage encore la dimension patriarcale de la série. On apprendra même dans la saison 7 que la toute première tueuse a été créée par trois sorciers. Ces derniers ont placé une jeune fille sur la bouche de l'enfer et lui ont fait absorber une partie des pouvoirs maléfiques qui en émanaient pour lui octroyer ses capacités surhumaines. La tueuse est donc une femme soumise à l'autorité des hommes et pire, sa force, son pouvoir provient d'une source maléfique. Sa force brute, ce qui lui permettrait de s'élever contre son statut, est considérée comme mauvais. Elle doit être donc contrôlée par tous les moyens. Et en plus, la femme, la tueuse, est considérée comme de la chair à canon qui est envoyée au front à la place d'hommes trop faibles et lâches pour affronter les dangers. Fort heureusement, parce que là, quand on vous décrivant ça, on va se dire, mon Dieu, c'est pas du tout une série féministe. Mais heureusement, Joss Whedon est un petit malin et le récit de sa mythique série sera précisément de compter la lente mais inexorable émancipation de Buffy pour bousculer la lignée des tueuses. Car Buffy contre les vampires ne raconte pas l'histoire d'une tueuse parmi d'autres, mais de celle qui va bousculer ce système et créer ses propres règles. Et à terme, octroyer plus de droits aux femmes et donc est une série féministe. Et c'est vrai que le scénariste est parti d'un simple clin d'œil. Le concept même de Buffy a germé dans son esprit quand il a eu l'idée de reprendre le contre-pied de la plupart des films d'horreur de l'époque, parce qu'on avait cette blonde sexuée de pratiquement tous les slasher movies qui se faisaient triper dès la première scène. Elle était idiote, présentée comme dépravée parce que pratiquant le sexe, elle devait invariablement mourir sous les coups de tous les fous furieux armés d'un couteau, d'une hache, d'une tronçonneuse. Ah oui, la plupart des films d'horreur des années 80 sont d'horribles pamphlets réac. Désormais, eh bien, selon Joss Whedon, ce sera la blonde qui deviendra l'épouvantail des méchants. C'est elle qui détient la force, c'est elle qui détient le pouvoir. Mais ce clin d'œil n'est pas suffisant. C'est pourquoi l'auteur a décidé de soumettre la jeune fille à l'autorité masculine et raconter effectivement pendant les 7 saisons comment elle va remettre en cause cet état de fait et devenir l'une des héroïnes féministes les plus fascinantes de l'histoire de la télévision.
Elle est quand même un tout petit peu... Enfin, tu parlais de Charm, des trois héroïnes qui sont langue pendante. Elle, c'est pareil par rapport à Spike et à Angel.
À Angel. Par rapport à Spike, c'est pas du tout pareil. L'histoire d'amour qu'elle vit avec Spike est pas du tout pareil. Et ça témoigne de l'évolution aussi de son personnage. Effectivement, au début, et j'en reviendrai, elle est présentée comme la petite fille BCBG qui se laisse un petit peu influencer par les hommes.
Alex, ne cherche pas, tu vas pas arriver à le coincer. Hein.
Voilà. Toi, t'as même pas essayé, donc.
Non, parce que c'est bien ce qu'il dit là.
Voilà. Et ce qui est bien, c'est que cette révolution féministe ne se fera pas à grands coups de campagne de publicité. Ce sera distillé intelligemment pour ne pas rendre non plus le propos indigeste. On ne le voit pas spécialement dans la série. C'est petit à petit, par petits à-coups. Faudra même attendre cette saison et la dernière saison et l'un des derniers grands ennemis de Buffy, Caleb, qui est une sorte de misogyne de la plus pure espèce, pour que le cheminement de la tueuse explose au grand jour. C'est à ce moment-là que le message féministe se fait limpide et que ça donne envie de revoir toute la série pour se rendre compte du chemin parcouru.
Tu cherches quelque chose, petite fille? Qu'est-ce que ça peut bien être?
En fait, je voulais vous rencontrer.
Oh, c'est vrai?
Je vous ai écouté ce soir. Votre sermon m'a bouleversée. Vos paroles ont trouvé un chemin en moi.
La vérité est plus tranchante qu'une lame de couteau. Elle pénètre l'âme.
Oui.
Les mots que je prononce sont puissants. Infiniment puissants. Je ne fais pas que parler. Je dis la vérité.
Je suis venue pour ça.
Ça t'a attiré. Sais-tu pourquoi? C'est parce que tu es humaine. Et que tu as des pulsions. La femme a ses pulsions. Et l'homme a les siennes. La race humaine peut être si faible parfois. C'est pour ça qu'on est attiré par la force, par le pouvoir.
Ce n'est pas un péché d'être attiré par le pouvoir, n'est-ce pas?
Oh non, ma fille. Ça n'est pas un péché.
Ah!
simplement humain.
Oh. Il paraît que les gens n'aiment pas voir les morts se relever.
Ces hérétiques, ils n'apprécient pas les plaisirs simples de la vie. Refaites-le.
Si ça te fait plaisir. Tu veux une des potentielles que tu as mises à mort?
Non, gardez-les pour plus tard. Je me sens d'humeur nostalgique aujourd'hui. Avant que je ne vous rencontre, j'ai connu une enfant de cœur à Knoxville. Je lui ai donné quelques leçons de chant. Elle hurlait bien mieux qu'elle ne chantait. Je voudrais la voir.
Toutes ces filles, elles t'ont suivi de leur plein gré. T'es un vrai charmeur.
Je ne leur ai dit que la vérité. Quant au fait qu'elle m'ait suivi, certaines filles ne sont bonnes qu'à ça.
Bon, ceci dit, Alex t'avait embêté avec le début de Buffy, revenons-en, parce qu'il n'avait pas tout à fait tort.
Non, effectivement, quand la saison 1 de Buffy commence, et qui n'est pas la meilleure saison d'ailleurs, Buffy est présentée comme une jeune adolescente, 16 ans, elle répond à tous les stéréotypes du genre, hein, inhérents aux filles de son âge, ce désir d'être acceptée, dans le groupe des pom-pom girls, puisqu'évidemment ça se passe aux États-Unis, envie d'avoir des amis, elle est tombe amoureuse du brun ténébreux, qui est un vampire. Elle est guidée par des adultes avec des enjeux qu'elle n'est pas toujours en mesure de comprendre pour son âge. Il faut savoir aussi que, bon, on lui adjoint effectivement l'autorité d'un observateur. Et à la fin de la saison 1, elle est même carrément envoyée à l'abattoir. On sait qu'il y a une prophétie qui dit qu'elle va mourir. Elle sait qu'elle y va pour se faire tuer. Elle va défier le vieux maître des vampires, sachant la fin qui s'annonce pour elle. Et la saison 1 se conclut par la première mort de Buffy, parce qu'elle va mourir quelquefois, mais qui va être immédiatement ramenée à la vie par Alex, qui lui pratique le bouche à bouche, elle revient à la vie, et c'est à partir de ce moment-là que le cheminement de Buffy commence. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle se transforme, et c'est d'ailleurs assez souligné d'ailleurs dans la mise en scène, la manière dont elle revient. Elle est libérée d'emploi quelque part. Dans la saison 2, Buffy va s'émanciper déjà au niveau familial, puisqu'elle va faire son coming out de tueuse auprès de sa mère. Elle va s'opposer de plus en plus, par petites touches, aux ordres de Giles, va remettre en question son autorité, parfois ne pas suivre ses conseils. Elle va vivre sa sexualité aussi, en faisant l'amour avec Angel, ce qui témoigne déjà d'une première évolution de la série, puisque dans la plupart des séries de l'époque, elles sont souvent très prudes, hein, non, on va attendre le mariage, etc. et tout. Ici, non, elle se sent prête, elle a envie de faire l'amour avec lui.
Moi, c'est une série que je connais pas bien, mais par contre, j'ai lu que dans les scènes, justement, intimes, c'était pas nécessairement elle qu'on déshabillait, mais lui. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai que lui se retrouve facilement torse nu. Elle, mais je pense que ça vient aussi de l'actrice, qui est apparemment assez pudique. Et dans la plupart des scènes, elle est, on pourrait effectivement l'avoir nue, elle est souvent encore fortement habillée.
Mais ceci, tu vois, a une conséquence féministe qui est, jusqu'alors, on disait que les films et les séries américaines étaient produites en fonction du regard masculin. Et que donc, c'est pour ça qu'on déshabille les demoiselles avant chaque acte et que quand on voit les préliminaires, en fait, c'est toujours les filles qu'on déshabillait. Repense à Top Gun et ce genre de choses-là. Dans Buffy, c'est une des premières séries à avoir cassé ça, c'est-à-dire que c'est pas elle qu'on déshabille mais lui, et c'est lui qu'on livre au regard des téléspectatrices, ce qui est un changement radical de manière de filmer les choses.
C'est probablement pas pour rien que WB est l'ancêtre de CW qui passe son temps à mettre des jeunes effets à poil, mais probablement pas pour la même raison.
Non, peut-être pas, effectivement. En tout cas, voilà, Buffy fait l'amour avec Angel, qui se transformera en démon juste après, puisqu'il va perdre son âme. Alors on est dans la métaphore du gros goujat, évidemment, qui a pu tirer son coup, et puis après qui lui dit « bon, maintenant, il faut que tu te casses ». Elle se retrouve en plus à la fin de cette saison privée de ses atouts habituels. Comme lui fait remarquer Angel dans une scène de combat, « tu n'as plus de famille, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus d'observateurs, qu'est-ce qui te reste ?» Et à ce moment-là, la tueuse lui répond « moi ». Et là, on est déjà sur une première prise de conscience de « ok, je suis là, je suis une femme et je suis une femme forte ». Saison 3, on va avoir la première grande rupture aussi de Buffy, puisqu'elle va être furieuse d'avoir été testée par le conseil des observateurs qui lui font passer un rite, qui font passer à toutes les tueuses, à l'occasion de ses 18 ans, la privant de ses pouvoirs à son insu. Donc elle va devoir se battre contre un vampire sans ses pouvoirs. Et elle va se rebeller contre cet ordre établi, contre ce rite qu'elle trouve inacceptable. Giles va d'ailleurs prendre sa défense et se verra virer de ses fonctions, et Buffy se verra adjoindre un nouvel observateur, Wesley, mais elle va le rejeter très rapidement, et elle va même annoncer sa démission au conseil. Elle sera désormais une tueuse freelance. Première évolution, c'est ok, la grande institution que je vois quasiment jamais et qui tire les ficelles, j'en veux plus. Saison 4, Buffy va apparaître sexuellement de plus en plus active parce qu'elle a un nouveau petit copain avec lequel elle peut faire l'amour pour le coup sans qu'il se transforme en monstre. Ce sera une saison de toutes les découvertes aussi pour les autres personnages avec l'homosexualité de Willow, Spike qui doit apprendre à vivre sans pouvoir mordre, Alex qui se met au travail puisque lui ne continue pas ses études. Et c'est une saison qui est aussi l'occasion d'un premier bilan de l'évolution de Buffy puisqu'elle va remettre souvent en question l'autorité de l'initiative qui est une sorte d'organisation secrète militaire qui se bat contre les démons. Et elle, régulièrement, alors que tout le monde accepte les ordres, régulièrement lève la main en disant « Et au fait, pourquoi on fait ça ? Et je suis pas d'accord, etc. » Ce qui va provoquer une véritable guerre entre elle et cette opération militaire. Et d'ailleurs, la fin de cette saison se conclut par un épisode onirique assez spécial qui signe une véritable fracture dans le style de Buffy. Alors le ton léger des débuts va petit à petit faire place à une atmosphère plus pesante, plus lourde, plus mature. C'est dans cet épisode qu'on entend Tara qui lui dit « Tu crois savoir ce que tu es, ce qui va t'attendre, et ben tu es encore loin de comprendre. » Saison 5, Buffy va réengager Giles pour lui en apprendre plus sur l'origine de ses pouvoirs. C'est elle qui lui fait cette fois-ci la demande, alors qu'il était sur le point de repartir en Angleterre. Donc déjà, elle prend cette décision-là, c'est elle qui fait cette initiative. Elle devient aussi le chef de famille à ce moment-là, puisqu'elle se découvre une petite sœur. On apprendra dans la saison d'où vient cette sœur, puisque c'est d'origine fantastique. Et elle va aussi prendre en charge sa mère qui souffre d'un cancer au niveau du cerveau. Et elle se verra à nouveau confrontée au conseil des observateurs qui tentera une fois de plus de la soumettre à un test. Et une fois de plus, Buffy va refuser en disant « Maintenant, c'est moi qui dicte les règles et c'est pour moi que vous travaillez, c'est pas l'inverse. » Et là aussi, on a une évolution. Saison 6, Buffy va souffrir d'une grave dépression. Elle meurt à la fin de la saison 5, qui est la métaphore de « Ok, j'ai perdu, maintenant je ne suis plus une enfant, je suis passé à l'âge adulte et je dois faire le deuil de ce passage-là. » Et elle va souffrir d'une grave dépression. À ce moment-là, dans la saison 6, elle va découvrir le monde du travail pour devenir financièrement indépendante, même si c'est pas un grand travail, puisqu'elle va être serveuse dans un fast-food. Jusque-là, évidemment, elle était dépendante financièrement de sa mère. Sa mère est décédée, elle a beaucoup compté sur l'aide financière de Giles et elle a beaucoup évolué. Et là, maintenant, elle décide de se prendre en main financièrement. Et elle va même se montrer de plus en plus active sexuellement, même si c'est... une sorte de symptôme de sa dépression. Elle sort avec Spike, mais c'est elle qui va le chercher. Dans une scène de combat, c'est elle qui finalement couche avec lui à ce moment-là. Elle le force, c'est presque un viol. Ça va même aller assez loin, leurs galipettes, ceux qui sont à la limite du SM. Elle se fait quand même prendre par derrière, en plein dans le bronze, dans la fameuse boîte dans laquelle ils sortent souvent. Elle se trouve sur le balcon, il vient par derrière et on devine, même si c'est suggéré, qu'il est en train de lui faire l'amour devant tout le monde. Donc là, on se dit, ok, on est un petit peu loin. Et mais c'est elle qui va aussi décider de sortir de ses addictions et prendre les décisions elle-même pour s'émanciper. C'est elle qui va décider de casser avec Spike en disant « Ok, notre relation ne m'amène pas du bon et je suis en train de me servir de toi, donc j'arrête. » Et ce sera d'ailleurs une rupture qui sera le théâtre d'une tentative de viol sur elle, une ultime coup du sort, pour tenter de la soumettre une nouvelle fois à la domination masculine, mais elle va s'en échapper. Je terminerai évidemment avec la saison 7 de Buffy, et là c'est... tout ce que Buffy a mis en place durant ses 6 premières saisons qui va être soumis un peu au test ultime, puisque la lignée des tueuses, par le simple fait que Buffy existe et donc qu'elle a bousculé l'ordre établi, est sur le point de s'éteindre, puisque le mal originel de First, en anglais, tue toutes les tueuses potentielles, celles qui seront activées quand Buffy sera morte. Pour en finir définitivement avec cette menace, Buffy constitue alors une armée de femmes et devient chef de guerre, avec tout ce que cela comprend comme décisions qui peuvent mener à des conséquences malheureuses, évidemment. Une saison clé dans laquelle Buffy sera confrontée à tous des éléments qui tenteront une dernière fois de la remettre dans sa place de femme soumise, puisqu'elle va se retrouver face à un méchant misogyne qui considère les femmes comme des pécheresses. Giles qui va tenter une dernière fois de lui imposer ses règles, mais elle va le rejeter en disant « Maintenant, vous m'avez appris tout ce que j'ai besoin de savoir désormais. » Le retour d'Angel aussi, dans le dernier épisode, qui lui fait une crise de jalousie sur les hommes qu'elle choisit, et elle lui explique « Écoute, j'ai envie de vivre ma vie par moi-même. Je suis pas prête pour me mettre avec un homme. Voilà, je gère les choses à ma manière. » Et elle va même avoir un face-à-face avec les créateurs de la toute première tueuse qui veulent lui offrir un nouveau pouvoir et elle va refuser en disant « Non, maintenant c'est moi qui dicte les règles. »
Nous voilà revenus au choix dont je vous parlais. Imaginez que vous avez ce pouvoir. Maintenant, à chaque génération, une tueuse vient au monde. Parce qu'une bande de types qui sont morts il y a des milliers d'années ont fixé les règles du jeu. Ces hommes étaient puissants. Cette femme est plus puissante que tous ces hommes réunis. Alors changeons les règles de ce jeu. Moi, je dis que mon pouvoir devrait être votre pouvoir. Demain, Willow utilisera l'essence de la faux pour changer notre destin. À partir de maintenant, toutes les tueuses potentielles qui attendent de par le monde deviendront des tueuses. Toutes les filles qui attendent d'avoir le pouvoir auront ce pouvoir. Celles qui étaient soumises résisteront enfin. Des tueuses. Chacune d'entre nous. Faites un choix. Êtes-vous prête à être forte ?
Buffy, c'est donc l'histoire d'un empowerment, c'est ce que cherchent les féministes, la prise de pouvoir.
La prise de pouvoir, tout à fait. Et ce qui est très fort aussi dans la série, c'est l'absence totale du père. Que ce soit pour Buffy ou pour la plupart des personnages. On voit quasiment jamais le père de Buffy. Évidemment, elle vit avec sa mère qui a divorcé, mais quand il apparaît, c'est surtout en tant que beau salaud, il a quitté le nid familial pour vivre son histoire d'amour avec sa secrétaire, donc on est dans le cliché. Et il apparaît qu'à quelques épisodes, un premier épisode dans la saison 1, où il est vraiment un filigrane, ou alors il apparaît en rêve à Buffy, mais jamais après physiquement. Et quasi aucun personnage dans la série n'a de père. Willow, il y a sa mère qui apparaît dans la série, dans un épisode, mais pas son père. Alex, ses parents ne sont que des voix de dispute qu'il entend depuis la cave. Spike, on voit sa mère, parce qu'il adorait sa mère, on voit qu'il avait une relation à la limite de l'Édipe pas du tout réglée, mais encore une fois, pas de père. Pas de parents non plus pour Cordelia, même s'ils sont évoqués. Pour Anya non plus, mais évidemment c'est un démon vieux de plus de 1000 ans. Pas de parents non plus pour Oz. Le seul père qui est vraiment mis en scène, le temps d'un seul épisode, c'est celui de Tara. Et il est vraiment pas charmant comme père, puisque ce dernier vient chercher sa fille pour la contrôler, parce qu'il lui prédit qu'elle a un démon en elle, comme sa mère, et que sa place doit être dans la famille, comprenez la place de la boniche, et que c'est sa seule place qui permettra de la protéger. Et là, Buffy va s'opposer à ce patriarche qui arrive, Tara aussi va refuser. Maintenant, il n'y a pas de père, mais il y a quand même une figure paternelle, évidemment. Il y a Giles, qui est le père, le confident de quasiment tous les personnages de la série. Il est autoritaire, il sait être le confident et le point d'ancrage de tout le monde. Et c'est d'ailleurs son départ dans la saison 6 qui provoquera un peu la débandade chez tous les personnages du Scooby Gang, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont tous partir en sucette. Et cette place du père est tellement présente chez Giles que quand il revient à Sunnydale pour remettre un peu Dark Willow dans le droit chemin, c'est cette dernière qui va se moquer de lui en disant « Aïe, daddy's home, papa est de retour, je vais vraiment avoir des ennuis ». Il y a aussi d'autres figures paternelles qui sont montrées, mais comme relativement hostiles dans la série. Il y a Quentin Traverse, le président du conseil des observateurs. On a le maire, qui vit une histoire un peu père-fille avec Faith, mais qui l'entraîne du côté sombre. On a le professeur du lycée, qui est aussi vu comme quelqu'un d'assez hostile envers Buffy. Toutes les figures d'autorité sont rejetées dans la série, et elles sont même tuées. Et ça va même assez loin, en fait, puisque dans tout ce qui est les hommes et les hommes qui se montrent un petit peu dégradants envers les femmes, connaissent une fin assez funeste dans la série. On a Caleb, un des grands méchants de la saison 7, et qui est un gros misogyne, qui se prend quand même un coup de hache dans les testicules, et puis se fait couper en deux. Warren, dans la méchant de la saison 6, qui tue son ex-petite copine, parce qu'elle veut pas retourner avec lui, va se retrouver écorché vif par Willow. Spike, qui va tenter de violer Buffy, devra subir après une multitude de tortures pour récupérer son âme. Parker, qui sort avec Buffy lors d'un épisode dans la saison 4, et qui ne la rappellera d'ailleurs jamais, elle va en souffrir, il se prendra un coup de poing en pleine face. Donc on a tous ces hommes qui, à partir du moment où ils ont maltraité les femmes, seront particulièrement et sévèrement punis.
Est-ce que du coup c'est un féminisme anti-homme, comme parfois on a pu en voir certains, ou est-ce que ça reste un féminisme qui veut plus de droits pour les femmes, mais en lien et en relation avec les hommes, mais d'une autre manière?
Mais les hommes qui respectent les femmes n'ont aucun problème. Alex est un petit peu en retrait, c'est vrai. C'est les femmes qui viennent vers lui sexuellement aussi, d'ailleurs, par exemple. Mais ça devient d'ailleurs un running gag, parce que la plupart des femmes qui veulent sortir avec lui sont des démons. Mais il respecte les femmes pour ce qu'elles sont, et donc il n'en souffre pas, il ne sera pas puni pour autant. Giles aussi est respecté. Buffy remet en cause son autorité, mais pas son statut d'homme, bien évidemment. Maintenant, évidemment, avec ce message extrêmement féministe, certains voient effectivement le fait que certains hommes, et d'ailleurs la plupart des démons qu'elles combattent dans la série sont de sexe masculin, on pourrait croire effectivement que c'est anti-homme, mais ça se ressent pas comme ça à partir du moment où ils font partie de la bande, c'est à partir du moment où ils acceptent les femmes, il n'y a pas ce rejet.
Et est-ce que quelqu'un prend l'autorité? Si l'autorité n'appartient plus aux hommes, elle appartient à qui? À Buffy?
À Buffy, ouais. Et d'ailleurs, cette autorité est vachement remise en question dans la fin de la saison 7, parce qu'elle prend des décisions qui, des fois, de temps en temps, amènent à des conséquences dramatiques pour les tueuses potentielles. Et lors d'un épisode qui s'appelle La Fronde, justement, ils vont remettre en cause son leadership. C'est Faith, en fait, qui va reprendre le leadership pendant un moment, mais Buffy va revenir, finalement, le reprendre un moment. Donc c'est elle, effectivement, qui prend le leadership, sauf qu'elle décide de le partager à la fin. puisque c'est elle qui dit, voilà, j'ai décidé de changer les règles du jeu, j'ai décidé que mon pouvoir serait votre pouvoir. C'est exactement comme ça qu'elle l'exprime. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de leadership. Toutes les femmes potentiellement qui ont envie d'être fortes seront potentiellement des femmes libérées.
Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que souvent, quand on a une fiction, que ce soit un film ou une série, qui présente un personnage de femme forte, ça devient un homme déguisé en femme. Ça devient ce que certains appellent les femmes masculines ou les femmes même musculines. C'est-à-dire, c'est le sergent Ripley dans Alien qui est musclé et qui se comporte finalement comme un homme et qui parvient par perdre même son identité de femme. Dans Buffy, j'avais déjà lu des textes qui disent qu'en fait, elle n'est ni femme ni homme, elle est les deux. De temps en temps, elle se comporte comme une femme telle qu'on a l'habitude de le voir dans les fictions, c'est-à-dire de manière stéréotypée, évidemment. Et de temps en temps, elle se comporte comme un homme. Est-ce que c'est vrai, ça? Elle est l'un et l'autre, elle choisit.
Moi, j'ai pas cette impression qu'elle est l'un et l'autre. Alors, elle est forte, mais après, elle reste féminine. Elle se bat en talons. Elle reste avec ses longs cheveux, elle est toujours maquillée, elle est toujours, elle est même en robe. La plupart du temps, il y a des blagues sur le fait qu'elle n'arrive pas à donner des coups de pied avec cette longue robe. Mais à aucun moment, elle ne renie sa féminité.
Et c'est donc ça, tu vois, elle peut avoir des caractéristiques masculines d'autorité, leadership, prise de pouvoir, tout en restant une femme. C'est-à-dire qu'elle ne devient pas homme.
Non, du tout. Et on ne met pas en avant des muscles particulièrement ou quoi que ce soit. Non, elle reste totalement féminine. Et la plupart des femmes, d'ailleurs, Willow reste totalement féminine, Anya aussi. Il n'est pas question après de transformer, et d'ailleurs Willow, qui est pourtant lesbienne, on aurait pu dire qu'on aurait pu sombrer dans le cliché de la lesbienne un peu camionneuse, pas du tout, elle reste extrêmement féminine, et les femmes avec lesquelles elle sort restent féminines aussi.
Quand je pense au personnage de Buffy dans Buffy contre les vampires, je fais d'office un rapprochement avec Emma Peel dans Chapeau melon, bottes de cuir. Sa manière de se battre tout en restant féminine, elle n'était pas tout aussi émancipée, mais l'époque n'était pas la même non plus, on était dans les années 60, et c'était déjà une révolution d'avoir un personnage tel quel dans une série télévisée. Je ne sais pas, est-ce que Buffy ne serait pas une évolution de ce personnage de départ ?
Mais j'avoue que le parallèle est assez intéressant, effectivement. Je ne sais pas si Joss Whedon l'a voulu comme ça, mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas, effectivement. Buffy a des caractéristiques, effectivement, d'Emma Peel. Alors, elle peut être des fois idiote, parce qu'elle n'est pas parfaite non plus. Elle n'a pas toujours beaucoup de culture. Mais quand il s'agit de prendre des décisions qui impliquent son pouvoir et le fait de protéger les gens, elle prend souvent les bonnes décisions. Elle est loin d'être bête, clairement. Elle manque des fois de culture parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle doit s'occuper, évidemment, de sauver le monde. Mais elle est loin d'être idiote. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, Buffy est une série féministe parce que ça raconte effectivement cette longue émancipation avec beaucoup de subtilité en plus. Franchement, ici, évidemment, je n'ai retracé que les passages où Buffy prend le pouvoir et s'émancipe petit à petit. On pourrait croire que le propos est assez lourd, alors que c'est distillé vraiment tout au long de la série et c'est fait avec beaucoup d'intelligence.
Ben voilà qui clôture ce dossier thématique consacré à Buffy contre les vampires et le féminisme. On se retrouve très prochainement pour un prochain podcast sur AFDS.tv.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.